moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains. On va continuer l'étude qu'on a commencée il y a quelques semaines, l'Épître aux Romains. On va lire ensemble les versets 14 à 17. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur, qu'un jour nous ayons pu entendre cet évangile de grâce, cet évangile qui parle de ton Fils Jésus-Christ, cet évangile qui nous réconcilie avec toi. Seigneur, ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir chacun ce que tu en réserves pour chacun de nous. Seigneur, nous te demandons de mettre ta main bénissante, Seigneur, sur les frères et sœurs, afin que nous puissions vraiment sortir fortifiés et grandis, parce que nous aurons la certitude tous que tu nous auras visités sans exception. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alors, tout au long de sa vie, peu importe ce qui lui arrivait, Paul était toujours prêt. Et s'il devait parler aux foules dans la rue, eh bien, Paul avait les mots justes pour leur parler. S'il devait s'adresser à l'élite ou aux philosophes d'une ville, eh bien, il était prêt. Et s'il devait parler avec les pharisiens, il savait aussi comment s'adresser à eux. Et lorsqu'il se retrouve devant Félix et le roi Agrippa, eh bien, il est prêt. Et lorsqu'il comparait devant Néron, Dieu était avec lui et Dieu va le délivrer de la gueule du lion. Pardon. Alors qu'il se trouve sur un bateau en tant que prisonnier, dans le livre des Actes, et qu'une tempête fait rage, il va savoir quoi dire pour réconforter l'équipage qui paniquait parce que le bateau menaçait de chavirer, de faire naufrage. Et lorsque ce bateau, justement, fera naufrage, eh bien, Paul, déjà, sur la plage, il sera prêt à ramasser du bois, en fait, pour que les gens puissent se réchauffer. Pardon. En toute chose, c'était un homme toujours prêt à aider et à aller là où son maître l'envoyait, et toujours prêt à faire tout ce que le Seigneur lui ordonnait. Et j'aimerais m'attarder ce matin sur l'état d'esprit de Paul quand il dit « Je suis prêt à tout ». Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu dans le français courant, mais le verset 15. Alors, il y a une traduction, même seconde, la traduction en grec, c'est pas « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile », mais dans le grec, c'est « Ainsi, je suis prêt à tout ». Pour vous annoncer l'Évangile. Alors, je suis prêt à tout pour vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, le terme est beaucoup plus qu'un désir, parce que je peux désirer sans vraiment vouloir. Il y en a qui désirent prendre une décision pour le Seigneur depuis des années, mais qui ne veulent pas faire le pas pour prendre la décision. Mais ici, c'est quand même important. Le mot grec, ici, c'est pas « j'ai un vif désir », mais en fait, c'est dans le grec, c'est « je suis tout prêt ». Donc, ça veut dire « Je suis prêt à tout pour annoncer l'Évangile ». J'aimerais, en fait, qu'on se focalise sur ce mot « Je suis tout prêt, je suis prêt à tout pour vous annoncer l'Évangile ». Et pour en parler ce matin, bien, j'aimerais qu'on regarde rapidement quatre passages où Paul exprime jusqu'à quel point il est prêt. Et ça va nous permettre aussi de nous examiner, laisser le Saint-Esprit nous examiner et voir jusqu'à quel point nous aussi nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes prêts à annoncer l'Évangile? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ? Et ainsi de suite, quoi. Alors, le premier passage, eh bien, c'est celui-là, le verset 15, où Paul dit qu'il est prêt à servir. « Ainsi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Mais il va aussi prêcher l'Évangile dans une grande partie, on sait qu'il va aussi prêcher l'Évangile dans une grande partie de l'Asie, à travers l'Europe, en Grèce. Et si pour lui, une opportunité se présente pour qu'il se rende à Rome, la capitale du monde, peu importe le danger auquel il pouvait être exposé, Paul était prêt à y aller. Et lorsque les premiers chrétiens faisaient face à la persécution, eh bien, ils ne s'attendaient pas à voir leurs circonstances changer. Au contraire, ils glorifiaient Dieu au milieu de leurs circonstances. Et frères et sœurs, n'est-il pas vrai, est-ce que c'est pas vrai de dire que nous suivons trop plus souvent leur exemple? On remet souvent les projets en attendant une situation favorable. On voit les obstacles sur la route comme des entraves plutôt que comme des tremplins. Et nous manquons, nous excusons même nos manquements en prétendant que nos circonstances ne sont pas nécessairement idéales. Et par exemple, celui qui est aux études, eh bien, ne prend pas part au service chrétien avant d'avoir obtenu son diplôme. Ensuite, il s'intéresse aux fréquentations et au mariage. Ensuite, ben, les pressions du travail et de la vie familiale vont l'empêcher de mettre la main à la charrue. Et alors, il décide d'attendre à la retraite, car à ce moment-là, eh bien, il pourra donner tout le reste de sa vie, ou tout ce qui lui reste à vivre, en fait, à consacrer au Seigneur. Il arrive finalement à la retraite, mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'énergie, et il succombe alors à une vie de loisir. Paul était prêt en toutes circonstances à annoncer l'Évangile. Paul était prêt en toutes circonstances à servir. La question qu'on peut se poser ce matin, moi qui m'a interpellé, est-ce que c'était uniquement réservé à Paul d'être toujours prêt à annoncer l'Évangile? Est-ce que c'était uniquement réservé à Paul de toujours chercher à être prêt à servir le Seigneur? Bonne question, non? Qu'est-ce que vous en pensez ce matin? Est-ce que vous êtes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur? C'est plus fort ce côté-là. Est-ce que vous êtes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur?
Amen.
Oui, on est tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Paul était prêt. Paul était prêt à servir. Paul avait compris que l'Église, c'était une famille. Paul avait compris que ceux qui étaient en Christ, ceux qui étaient sauvés, c'était ses frères, étaient devenus ses frères et sœurs en Christ. Et Paul était prêt à servir. Servir à devenir un serviteur pour ses frères, pour ses sœurs. Agir avec les Juifs comme des Juifs, agir avec les Grecs comme des Grecs, comme des Grecs avec des Grecs. On a un beau modèle dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. Joseph, frère et sœur, n'a pas attendu de sortir de prison pour se rendre utile, il travaillait pour Dieu même en prison. Daniel est devenu un outil puissant dans les mains de Dieu au moment de la captivité à Babylone, et s'il avait attendu la fin de l'exil, il aurait été trop tard. C'est pendant qu'il était en prison que Paul va écrire la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens. C'est pendant qu'il était en prison que Paul va écrire la lettre à Philémon. Et il n'a pas attendu de se retrouver dans la meilleure circonstance. En vérité, notre vie ici-bas ne nous placera jamais dans une situation idéale pour faire quoi que ce soit. Et comme chrétiens, il n'y a rien qui nous promet que cela ira en s'améliorant. Par conséquent, pour servir le Seigneur, comme pour annoncer l'Évangile, le temps favorable, c'est aujourd'hui. Vous êtes amen à ça? Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Et je le répète, il y a des gens qui me disent, « Oui, mais je veux bien annoncer l'Évangile, mais je ne sais pas comment. » Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est dites aux gens ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est ça l'Évangile. Dites aux gens ce que Jésus a fait dans votre vie. Dites aux gens les changements qui sont survenus dans votre vie à partir du moment où vous avez rencontré Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. On peut connaître des versets par cœur pour évangéliser, mais si on ne les vit pas, eh bien ça va frapper, ça ne dépassera pas le plafond de la chambre, et ça n'atteindra pas, ça sera pas capable de pénétrer dans le cœur des gens. Le Seigneur, c'est vrai qu'il veut nous utiliser, c'est vrai que la parole est tranchante, elle est efficace, comme une épée, double tranchant, mais le Seigneur, celui qui porte cet évangile-là, s'il veut voir le Saint-Esprit convertir les gens, parce que c'est le Saint-Esprit qui convertit, il doit aussi vivre les messages qu'il transmet aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque, comme à l'époque de l'apôtre Paul, où ce que les gens ont besoin de voir, c'est pas des gens qui connaissent la parole de Dieu, c'est des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faisait si vous lisez le livre des Actes? C'est des gens qui venaient au Seigneur. L'Église chrétienne était nouvellement fondée. Les gens n'avaient pas suivi de cours de théologie. Ils avaient reçu ce qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus. Eh bien, c'est ce qu'ils transmettaient. Et à travers le livre des Actes, autant à travers le message des apôtres, autant à travers le témoignage des chrétiens, eh bien, les gens, les païens de l'époque, voyaient qu'il y avait quelque chose de particulier dans le cœur de ces gens-là, qu'il y avait des transformations, parce qu'ils avaient vécu aussi avant, avec ces gens-là, avant qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Et cette transformation-là, ils savaient que ça venait pas d'une basse philosophie, que ça venait pas non plus d'une religion, ils savaient que ça venait d'une personne, ils savaient que c'était réel, et c'est ce qui attirait les gens à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on vit dans un monde païen. Alors, c'est pas un monde post-moderne, c'est un monde post-chrétien, c'est un monde anti-chrétien. Et en tout cas, je situe cette période-là un peu comme la période de l'apôtre Paul, où les gens ont horreur de rentrer dans les églises, où les gens ont horreur d'entendre Dieu, parce qu'ils sont envahis par toutes sortes de philosophies, toutes sortes de courants de pensée dans le monde, comme à l'époque de l'apôtre Paul. On dit qu'il y avait plus de 10 000 dieux à l'époque de l'Empire romain. Donc, les gens avaient le choix, hein. Un Dieu à la carte, les gens avaient le choix d'adorer quel Dieu ils voulaient. Et aujourd'hui, quand vous regardez avec toutes les, toutes les religions orientales, avec toutes les philosophies du monde, on n'est pas loin des demi-dieux non plus. Hein. Les gens peuvent adorer qui ils veulent, les gens peuvent choisir le Dieu qu'ils veulent, le Dieu qui les arrange, mais accepter le Dieu qui les arrange, ça c'est une autre chose. Et c'est vrai que quand l'Évangile est prêché comme il doit être prêché, eh bien l'Évangile les dérange. Parce que l'Évangile place les gens devant un fait accompli, elle leur dit exactement ce qu'ils sont. Elle n'est pas là pour les consoler, elle n'est pas là pour leur, les séduire, elle est là pour dire ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent devenir à travers la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est un message qui ne plaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a des persécutions, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne nous parlent pas, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne nous parlent plus après avoir prêché l'Évangile, parce que à travers l'Évangile, eh bien, le Seigneur leur dit, écoute, voici ce que tu es, maintenant voici ce que j'aimerais que tu sois. Tu es un cœur rebelle, maintenant j'aimerais que tu te réconcilies avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai des trésors pour toi. Maintenant, voici ce qui t'attend si tu prends une décision. C'est pour ça que l'Évangile, on ne peut pas la diluer. L'Évangile, c'est pas juste accepte le Seigneur Jésus. Ça, j'en parlerai, quoi. C'est pas juste, il faut expliquer qu'est-ce que c'est, accepte le Seigneur Jésus, tu sois sauvé. Hein. C'est accepte aussi tout ce qui va avec, quoi. C'est accepte tout ce qui va avec. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de vendre ou de transmettre un message qui est facile, parce qu'il y a un prêt à payer aussi à vivre comme un chrétien. Et ce prix-là, eh bien, si on n'a pas reçu l'Évangile tel qu'elle doit être reçu, eh bien, on se dit, ah, ben, c'est ça la vie chrétienne. Moi, c'est pas ça qu'on avait expliqué. Mais c'est important. Et aussi, la vie d'obéissance. Hébreux, chapitre. Je ne sais pas si je vais le trouver dans celui-là. Hébreux, chapitre 5. Verset 7, ceux qui ont leur Bible. Alors, on parle de Christ ici et on dit au verset 7, la fin du verset 7, que Christ a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Moi, je me demandais, je me disais, mais oui, mais l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et j'ai compris que pour notre propre vie à nous, hein, quand tout va bien, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'obéir à la parole que quand tout va mal, que quand on vit des difficultés. C'est dans les difficultés que Dieu nous place dans des situations où on n'a pas le choix de se tourner vers lui, de se confier en lui. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux, pas qui croient en lui, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Comment je fais pour savoir si j'ai la foi qui sauve? C'est que j'obéis à la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 façons de vivre la vie chrétienne. Comment je fais pour pas me faire séduire, à dire, écoute, est-ce que moi je suis un chrétien de nom, un chrétien de cœur? Est-ce que j'ai vraiment vécu cette nouvelle naissance? Eh bien, si tu es vraiment passé par cette nouvelle naissance, si tu as vraiment la foi qui sauve, tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas mettre la parole de Dieu en application à ta vie tous les jours. Et celui qui met en application la parole de Dieu tous les jours manifeste qu'il a la foi qui sauve. Les deux sont intimement reliés l'un à l'autre. L'apôtre Paul était prêt à aller n'importe où pour Jésus, il était prêt à aller n'importe où pour prêcher l'Évangile. Il était prêt à aller n'importe où pour gagner les âmes, et il était prêt à aller n'importe où pour réconforter le peuple de Dieu. Il dit, je suis prêt. Je suis tout prêt. Je suis prêt à tout, dit-il. Il n'y avait pas un seul endroit où Paul n'était pas prêt à aller pour annoncer l'Évangile de son maître. Sommes-nous prêts comme Paul l'était à aller n'importe où pour Jésus? C'est une bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui. Hein? Sommes-nous prêts à consacrer une semaine de vacances par année et de dire, Seigneur, en prière, montre-moi où tu voudrais que je puisse annoncer l'Évangile. Montre-moi, Seigneur, pour une semaine par année, où tu voudrais que je sois pour manifester ta présence. Parce que c'est ça, un chrétien. Hein? Un chrétien qui vit sa foi, c'est quelqu'un qui manifeste la présence de Jésus là où il se trouve. Tu t'amènes à son goût. Amen. Et lorsqu'on vit vraiment cette foi avec le Seigneur, lorsqu'on est vraiment en communion intime avec le Seigneur, on n'est pas nécessairement obligé d'ouvrir la bouche, les gens voient qu'il y a une différence dans nos vies. Les gens voient qu'on est des personnes différentes. Et quand le Saint-Esprit agit, les gens vont mieux nous voir et vont nous demander ce qu'on a qui est différent. C'est quoi qui est différent? Qu'est-ce que vous avez de différent que moi j'ai pas? Oui, c'est pas vrai. Je pense qu'à chaque fois que Salvatore est en avant, il le dit, il en parle, quand il brisine. Mais c'est vrai. Écoutez, honnêtement, hein, ça fait quelques mois, je ne l'ai pas dit, honnêtement, si on prend une décision pour Jésus-Christ, si on lève la main et dit, ah, Seigneur, je t'ai accepté, je suis sauvé, et qu'il n'y a pas de changement deux semaines après, trois semaines après, et qu'on dit à tout le monde qu'on est sauvé parce qu'on a accepté Jésus-Christ, mais il n'y a aucun changement. Notre espérance est la même qu'avant. Il n'y a aucun changement dans notre comportement. Pour quelle raison les gens devraient passer des ténèbres à la lumière? C'est une fausse lumière. On est une lumière éteinte dans ce monde qui est perdu. On n'est pas une lumière qui éclaire les gens qui sont perdus. Alors, il doit se passer un miracle quand la personne prend une décision pour le Seigneur. Un miracle qui bouleverse, un miracle qui transforme. Puisque les gens regardent et ils disent, écoute, je ne te reconnais plus. Il a été différent. Les gens vous ont déjà dit ça?
Ah oui?
Ils vont même aller plus loin que ça, ils vont dire je t'aimais mieux quand tu étais avant, comme tu étais avant. Je connais quelqu'un qui est alcoolique au Québec, qui faisait le déshonneur de sa famille, qui cassait tout quand il était sous. Il a pris une décision pour le Seigneur, il a été délivré de la boisson et sa famille, tout ce qu'elle a pu lui dire, on t'aimait mieux comme tu étais avant. Pourquoi? Parce qu'il est une lumière. Et à travers cette lumière-là, Dieu met en lumière les œuvres mauvaises que les membres de sa famille faisaient. Ça les dérangeait. Avant, on pouvait se moquer de lui. Il était saoul, il était indigne. Maintenant, ah, il se tient debout à cause de Jésus-Christ. Mais finalement, eh bien, à travers l'Évangile, il est en train de remontrer ce qu'il est, à travers cette transformation. Frères et sœurs, l'apôtre Paul était prêt d'aller n'importe où pour Jésus. Oserions-nous quitter notre confort familier pendant un certain temps pour annoncer l'Évangile, qui est la puissance que Dieu utilise pour sauver quiconque croit? Que le Seigneur nous maintienne sur la pointe des pieds, prêt à nous déplacer si le nuage se déplace, et prêt également à demeurer où nous sommes si le nuage ne se déplace pas. Si l'apôtre Paul était prêt à annoncer l'Évangile n'importe où, il n'était pas prêt à prêcher un autre Évangile, personne n'aurait pu l'amener à prêcher, à être prêt à prêcher autre chose. Il n'était pas prêt à cacher l'Évangile, il n'était pas prêt à diluer le message, il n'était pas prêt à réduire ou à rajouter quoi que ce soit au message de l'Évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement. Hein? Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire ici. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? C'est la puissance de Dieu. Il ne dit pas je n'ai point honte, il ne dit pas je ne suis pas gêné, je suis gêné de prêcher l'Évangile, il dit je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Vous savez pourquoi Paul n'avait point honte de prêcher l'Évangile? Parce que dans son cœur, il n'y avait aucun doute que c'était 100% la vérité, que c'était la seule vérité. Frères et sœurs, ce matin, si on a honte de prêcher l'Évangile, et si on est gêné de prêcher l'Évangile, serait-il possible qu'on soit convaincu à 100%? Et ça, c'est l'antidote que le monde païen a besoin d'entendre pour guérir. Paul n'avait pas peur de faire rire de lui. Paul n'avait pas peur de perdre sa réputation. Paul n'avait pas peur de voir son nom être sali sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que ce qu'il prêchait, c'était la seule vérité qui existait. Frères et sœurs, si on est convaincu dans notre cœur à 100% que ce à quoi on croit, c'est pleinement la vérité à 100%, qu'il n'y a pas rien d'autre à côté qui peut venir se rajouter ou s'ennuyer. Frères et sœurs, on serait toujours prêts à prêcher l'Évangile. Et on serait toujours prêts à mettre de côté ce qui pourrait nous empêcher de prêcher l'Évangile. Nos maisons, notre compte de banque, nos voitures, notre carrière, notre fonds de pension. Parce que tout ça, il y a au mieux qui nous attend au ciel. Frères et sœurs, comment Paul, avec toutes les richesses qu'il voyait autour de lui, comment Paul pouvait-il dire un jour, tout ce que je vois autour de moi, je vois ça comme étant de la boue? Ben, c'est parce que dans son cœur, il était convaincu à 100%. Le message qu'il comprenait, le message qu'il saisit, qu'il avait saisi, le message qu'il annonçait, eh bien, c'était pleinement 100% de la vérité. Frères et sœurs, on est convaincus dans notre cœur que Jésus-Christ non seulement est mort pour nos péchés, mais qu'il est revenu de la mort à la vie. On est convaincus à 100%. Qu'est-ce qu'on attend pour les choses autres? Je peux poser la question différemment si vous vous sentez coupable. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de mettre une semaine à part par année pour annoncer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Moi, je vais passer deux semaines à la mer. Vous pensez que c'est parce que je suis pasteur que je suis obligé d'aller passer deux semaines à la mer? Non, je les prends sur deux semaines de mes vacances. Et je me dis, c'est une occasion, toute l'année, je prêche à des gens qui viennent à l'église. C'est l'occasion pour moi maintenant d'aller dans la rue et prêcher à des gens qui n'ont peut-être jamais vu et viennent dans une église. Je vais peut-être faire rire de moi, les gens vont peut-être se moquer de moi, surtout mon accent. Et je me dis, je dois bien sûr, Seigneur. J'en dois quand même bien une au Seigneur, non? J'en dois quand même bien deux semaines au Seigneur. Quand il était sur la croix, la foule s'est moquée de lui, les prêtres se sont moqués de lui, les soldats se sont moqués de lui, les malfaiteurs se sont moqués de lui. Pendant deux semaines, il y en a deux ou trois qui se moquent de moi. C'est pas un gros salaire de payer par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Bon, frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à l'évangéliser, si vous n'êtes pas prêts à être témoin de Christ dans ce monde perdu, l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être un témoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de proclamer l'Évangile? Votre âge. Votre âge. Georges Miller a commencé à évangéliser à 68 ans. Il vient d'appel pour l'évangélisation. 68. C'est une bonne gifle pour nous, ça, hein? 68. Évangéliser jusqu'à 93 ans. Le Seigneur s'est fait venir de vous, ses serviteurs, hein? 93 ans. Il a rêvé toute sa vie. À l'évangéliser. Seigneur, si tu vas t'occuper des orphelins jusqu'à 68 ans. De 68 à 93 ans, il a parcouru le monde pour proclamer l'Évangile. Georges Miller, il attendait pas son fonds de pension. Georges Miller, il n'avait pas de plan de carrière. Il suivait le plan de carrière que Dieu avait pour lui. Comment c'est l'Évangile? Pour prêcher l'Évangile, Paul était toujours prêt. Il ne retenait aucune de ses vérités, ni aucune partie de ses enseignements, même si cela devait l'amener à être ridiculisé, à être méprisé, de prêcher l'Évangile, de prêcher Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Paul dira, en ce qui me concerne, je suis prêt à leur prêcher l'Évangile. Il ne s'est pas toujours senti apte à accomplir cette œuvre. Il n'a pas toujours rencontré la même ouverture ou la même liberté pour parler, mais il était toujours prêt à partager l'Évangile à chaque fois que le Seigneur lui en donnait l'occasion. Le deuxième endroit où Paul dit qu'il est prêt, c'est dans Actes chapitre 21, verset 13. Tournez avec moi, Actes chapitre 21, verset 13. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Je suis prêt non seulement à le servir, dans Romains 1,15, mais je suis aussi prêt à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. » Frère et sœur, c'est peut-être une chose encore plus difficile que la première. C'est peut-être plus facile de servir que de mourir pour Christ. Être prêt à souffrir, c'est encore plus difficile que d'être prêt à servir. Pour certains d'entre nous, c'est devenu l'habitude de prêcher l'Évangile, mais ici, nous nous trouvons en présence de quelqu'un qui est prêt à souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Il est tellement prêt qu'il n'y a personne qui peut réussir à le dissuader. Il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Écoutez, ils sont sur le bord de la plage, ils le supplient. Paul! Il les aimait, ces frères-là. Il les aimait, ces sœurs-là. Paul, va-t'en pas, écoute, il y a quelqu'un qui a prophétisé. Hein? Le prophète Agabus avait prophétisé, quoi. il serait tué à Jérusalem. Mais il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Verset 13, il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à faire rire de nous? Sommes-nous prêts à nous faire prêter d'idiot et être jetés pour le nom du Seigneur Jésus? Sommes-nous prêts, si nous devions être obligés de le faire, à perdre des amis pour le nom du Seigneur Jésus? Sommes-nous prêts à sacrifier notre confort pour le nom du Seigneur Jésus? Sommes-nous prêts à dire comme le Seigneur Jésus, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur? Le troisième passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Il nous parle que Paul était prêt à faire une œuvre qui n'est pas toujours plaisante à faire. Et je crains que c'est quelque chose que plusieurs responsables dans l'Église n'osent pas faire malheureusement aujourd'hui. Et dans ce passage, il dit, « Nous sommes prêts aussi à punir toutes les obéissances dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. » L'Église de Corinthe était tombée bien bas, elle était sans pasteur. Et lorsque Paul se retrouve parmi ces gens, déterminé à appliquer la discipline, à essayer de remettre les choses en place, il n'y est pas allé avec une épée faite de main d'homme ou dans un esprit de méchanceté ni de vengeance, il y est allé avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Il écrit les armes avec lesquelles nous combattons, 2 Corinthiens 10, 4. Il écrit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, détruire des forteresses. Et qu'est-ce que c'est les forteresses? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Presque à chaque message, je répète, et je le dis en tout cas tous les mercredis à l'étude biblique, lisez la Bible chaque jour, mémorisez les versets. Et regardez au verset 10, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, renverser les forteresses ou détruire des forteresses, c'est détruire un système de pensée qui est contraire au système de pensée des Évangiles et contraire à un système de pensée qui se trouve dans la parole de Dieu. Comment vous faites pour être sûr, vous, que ce que vous pensez, c'est la bonne chose? Comment vous faites pour savoir ce que vous pensez, vous avez raison? C'est simplement en plongeant votre regard dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui va vous éclairer. C'est Dieu qui va vous dire si c'est votre nature humaine qui vous amène à penser, à réfléchir de telle façon, ou si c'est l'Esprit du Seigneur qui vous donne cette façon de penser. Et plus vous allez plonger vos regards dans la parole, plus Dieu va évacuer toute pensée qui ne vient pas de lui. Il va finir par déposer ses pensées à lui et faire en sorte que toutes les pensées que vous allez avoir vont pas l'utiliser. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ici? Pour nous amener, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est qu'on devient tellement sensible, parce qu'on lit la parole, parce qu'on médite la parole, on devient tellement sensible que c'est comme un radar. On a moindrement qu'une pensée qui vient dans notre esprit qui n'est pas du Seigneur. Il y a un système qui se déclenche en nous et on est capable de dire « Oups, ça, c'est pas de Dieu, je la mets de côté, ça, c'est, j'ai pas à faire à continuer à penser à ça. » Pourquoi c'est important? Je n'ai parlé mercredi dans une étude biblique. Souvent, nous, on surveille ce qu'on va faire. On se dit « Écoute, il faut que je fasse attention de ne pas mal faire, il faut que je fasse attention de surveiller ce que mes actions, et ainsi de suite. » Mais en réalité, on commence très, très mal la bagarre parce que la bagarre, c'est pas dans nos actions qu'on les remporte, c'est dans nos pensées. Jésus dit, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre des péchés. C'est d'abord dans nos pensées. Et c'est pour ça qu'on doit amener toute pensée captive à la connaissance de Jésus-Christ. C'est important. La façon que je regarde une femme, je peux regarder une femme, hein? C'est pas parce que je suis marié, j'ai pas le droit de regarder les femmes. Mais par contre, la façon que je les regarde va déterminer si je commets l'adultère ou si je ne la commets pas. Comment je peux savoir si je commets l'adultère ou je ne le commets pas? C'est en lisant les Écritures. Puisque Jésus dit, à partir du moment où tu regardes une femme, quand tu penses que coucher avec, tu as commis l'adultère, ça c'est la loi. Et là, on met la loi de côté. Maintenant, c'est la loi de l'esprit, c'est la loi du cœur. Maintenant, Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur qui veut mettre en lumière et te donner un nouveau cœur. Et là, ce n'est pas le fait que tu couches avec une femme que tu as commis l'adultère. Si seulement tu as désiré dans ton cœur voir coucher avec elle, tu as commis l'adultère. À nous la grâce, hein? La grâce est bien plus exigeante que la loi. Pourquoi la grâce est plus exigeante que la loi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on est capable de dire non. On est capable de dire non. La loi, Paul nous dit dans Romains que la loi nous a été donnée simplement pour mettre en lumière qu'on est des pécheurs. Mais la loi ne peut rien faire pour nous sauver. La loi ne peut rien faire pour nous libérer du péché. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette vérité qu'on reçoit, le Saint-Esprit qu'on reçoit, nous transmet une vérité. Et cette vérité, eh bien, à partir de là, c'est une vérité qui transforme le cœur. Et là, on est capable de dire, écoute, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. C'est un même aspect. D'où l'importance de mémoriser les Écritures, parce que quand vous aurez affronté une tentation, l'Esprit sera votre système d'alarme, vous allez dire, danger, 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 éloigne-toi, éloigne-toi. Ramène ta pensée captive en Jésus-Christ. Et cette pensée captive en Jésus-Christ, elle vous ramène dans les Écritures et vous donne le verset qui va vous dire, qui va contrer cette tentation-là. Pour que cette tentation-là vous frappe un mur, elle va être impuissante pour vous faire chuter. Ce n'est pas péché d'avoir des tentations. Ce qui est péché, c'est de tomber dans la tentation. C'est de succomber à la tentation. Sinon, les tentations, on en a, regardez les panneaux aujourd'hui, les panneaux réclament sur la rue, eh bien, il faudrait conduire, avoir les deux yeux crevés pour conduire, causer beaucoup d'accidents. Mais il faudrait pratiquement, on ne peut pas s'empêcher de tout voir ce qu'il y a. Quoi, hein. Mais non, on est tenté partout aujourd'hui. Et ce qui est péché, c'est de succomber à la tentation. Alors, Paul dit, c'est ce que Paul dit ici, hein, pour renverser, détruire des forteresses, c'est ce que l'Évangile est. Il a bien l'intention de visiter ces chrétiens et renverser la forteresse de la débauche qui était entrée dans l'Église, à un point tel qu'au moment de prendre la Sainte-Seine, certains étaient complètement pétés, quoi. Ouais, hein, c'est ce que je l'invente pas, quoi, hein, 1 Corinthiens 11, 21, quoi. Alors, c'était fait dans la chair, quoi. C'était même pas fait par esprit de reconnaissance. Paul, il dit, écoutez, vous êtes complètement déréglé, quoi. Chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Écoute, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, quoi. Vous avez perdu de vue à la croix. Et perdu de vue ce que Christ a fait pour vous, quoi. Vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous-même, tout le monde s'empiffre. Celui qui peut manger le plus possible, il va le faire. Celui qui peut boire le plus, il va le faire. Puis après, quoi, vous approchez de la table de Saint-Saëns. Un péché de gourmandise, un péché de boisson. Vous ne vous comportez pas mieux que les gens du monde, quoi. Et Paul avait l'intention de rappeler à l'ordre tous ceux qui déshonoraient le nom de Christ. Frères et sœurs, il est facile de féliciter les amis, mais c'est une autre chose d'aller parler personnellement à ceux qui vivent dans le péché et d'avoir la conviction dans notre cœur que tant et aussi longtemps que nous occuperons une responsabilité dans l'Église, nous ne pouvons pas tolérer un lacan et que nous ne pouvons pas accepter sciemment que le mal se répande dans la maison de Dieu. Ça, c'est la partie difficile du pastorat, hein, reprendre les gens. Il ne faut pas utiliser la chair pour reprendre quelqu'un. Et si vous lisez l'histoire d'Acan, dans Josué, chapitre 7, vous allez vous apercevoir que c'est très important de vivre dans la sanctification. Parce que le cœur de Dieu n'a pas changé à ce niveau-là. Israël était un peuple. L'Église est un peuple. C'est le prolongement de l'Israël, de Dieu. Quand il y a un membre qui règne dans le péché dans l'Église, et qui pense que personne ne sait, que même pas Dieu n'est au courant, il ne faut pas savoir le nombre de bénédictions qui empêchent l'Église de recevoir parce qu'il règne dans le péché. Et s'il règne dans le péché, qu'il n'y a rien qui intervient dans l'Église, si l'Église n'est pas privée de bénédictions, eh bien cette personne-là devrait revoir la journée où elle a fait sa repentance et s'est converti. Parce qu'Acan avait fait commettre un péché, en Josué chapitre 7, tout le peuple d'Israël subit le jugement de Dieu. Tout le peuple d'Israël. Ils sont partis à la guerre, ils ont été battus, alors que normalement, ils ont dû remporter une grande victoire. Et là, ils sont revenus tout penauds en tristesse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu, Acan, tu penses que tu es tout seul? Qui sait que tu as volé? Tu penses que tu es tout seul? Qui sait que tu as commis un péché? Attends un peu, je vais mettre en lumière ton péché devant tout le monde, et moi, je vais être jugé devant tout le monde. Et Acan, il a payé un petit coup. Ouais. Et pour le péché d'Acan, vous verrez, lisez, vous regarderez le nombre de personnes qui sont mortes à cause de son péché. Vous regarderez le nombre de personnes qui ont subi directement le jugement de Dieu à cause du péché d'Acan. Frères et sœurs, l'Église, l'Église, ce n'est pas un club de foot. L'Église, ce n'est pas un club de basket. L'Église, c'est l'équipe du Seigneur. et on doit tous marcher dans l'unité. On doit tous marcher ensemble. Parce qu'à partir du moment où il y en a un qui baigne dans le péché, on doit se rappeler, peu importe, même si on est dans le Nouveau Testament, que les frères et sœurs vont subir les contre-coups. On t'amène à ça? C'est important. Le salut est personnel aujourd'hui, mais l'Église, c'est un ensemble. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est un groupe. C'est avec l'Église que Dieu veut travailler, parce que c'est dans l'Église que Dieu a donné ses dons. C'est pas une personne. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de vedette dans l'Église de Jésus-Christ. Moi, je suis pasteur, mais je suis un membre ordinaire. Hein. Avec un appel particulier, mais je suis un membre ordinaire, égal comme vous. Hein. Je ne suis pas un loin de Dieu. Hein. Bon, je parle dans le mauvais sens, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a, ils voient un pasteur. Écoute, le pasteur, il ne porte pas à terre. Hein. Il est au premier étage, ils sont en cave. Hein. Non, un pasteur, c'est un membre ordinaire comme tout le monde. Il y a des comptes à rendre, et doublement, par rapport à l'enseignement qu'il vous donne aussi, face au Seigneur. Devons-nous nous efforcer d'être des surveillants comme Dieu nous a appelés à être et ne pas nous adonner aux choses qui sont mal, mais veiller sur tout ce qui est confié à notre responsabilité et essayer de redresser ce qui a besoin de l'être. Au moment où le Seigneur Jésus reviendra, s'il trouve son Église tiède, infidèle, mondaine, je prie qu'il ne pointe pas son doigt sur des serviteurs infidèles et qu'il ne dise aucun d'entre nous, c'est celui qui est responsable pour la triste condition de notre Église. Que le Seigneur nous donne d'être prêts pour tout ce qu'il a préparé pour nous, peu importe que la tâche accomplie soit désagréable, pardon, ou contraire à ce que nous pensons, ressentons. Que nous puissions être prêts à accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Cela n'a jamais été facile de parler avec fermeté à quelqu'un, en gardant un esprit de douceur dans notre façon de parler. Mais à tous ceux qui occupent un poste de responsabilité dans l'Église, vous devez être prêts à accomplir ce travail désagréable. Et là, je ne parle pas juste des pasteurs, je ne parle pas juste du conseil, je parle de chaque responsable des ministères. Chaque responsable des ministères, vous êtes responsable de la façon dont spirituellement votre ministère fonctionne. Et vous aurez aussi à répondre à Dieu de ce que vous aurez donné dans chacun des ministères que Dieu vous aura confié. Facile, quand ça ne va pas dans un ministère, chercher le pasteur, vous allez le bouée sauvetage, quelque chose. Non. Vous êtes responsable du ministère. C'est à vous que revient la charge de reprendre, si vous devez reprendre, avec fermeté, mais aussi avec douceur. C'est à vous de gérer ça. Et là, si ça ne va pas, la Bible donne des paliers. Quoi, si ça ne va pas, on ira jusqu'au conseil, on va jusqu'au pasteur, on va jusqu'au conseil. Mais les responsables, vous allez être tenus responsables, là, vous allez rien avoir à répondre de ce que vous aurez fait au ministère que Dieu vous a donné. Très rapidement, le quatrième passage se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, un verset fort connu. Hein? 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Et le mot principe, il est vraiment bien camouflé, mais on va le découvrir ensemble. Quant à moi, l'heure est arrivée où je vais être offert en sacrifice. Le moment de mon départ est proche. Êtes-vous d'accord pour dire avec moi que Paul est en train de dire ici, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Il était prêt à quitter la terre pour aller rejoindre ceux qui l'avaient précédé au ciel, au point où il va dire, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, c'est-à-dire le prix de la victoire, m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra, pardon. Dans une autre version, il est écrit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et pendant de nombreuses années, moi, j'ai cru que ces paroles faisaient référence aux chrétiens qui, à la pensée du retour du Seigneur Jésus, se sentait bien au point d'en devenir sentimentaux. Moi, je croyais donc qu'ils seraient récompensés par une couronne de justice parce que la pensée du retour de Christ leur faisait chaud au cœur. Et ces paroles signifient plus que cela. Aimer son avènement, c'est-à-dire désirer son retour, aspirer à voir son retour, signifie vivre à la lumière de sa venue, se conduire comme s'il devait arriver aujourd'hui. Il t'amène à ça. Vous savez pourquoi des fois on se laisse emporter? Pourquoi on était chaud, on était bouillant, puis là on tiédit, puis on se refroidit? Parce qu'à chaque jour, on oublie de se rappeler que Christ revient bientôt. Et le bientôt, c'est n'importe quand. Le bientôt, ça peut être aujourd'hui. Le bientôt, ça peut être demain, parce que le temps du Seigneur ne compte pas. Le Seigneur, il ne vit pas dans le temps. Il baigne dans l'éternité. Il n'y a pas de commencement à l'éternité, puis il n'y a pas de fin. Nous, on est venus au monde, on vieillit, on va mourir, et là, c'est l'espace de temps, quoi. C'est à peu près ça, hein, dans l'éternité. Mais là, Dieu, imaginez-vous, il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on est appelés à vivre parce qu'il n'y a pas de fin avec lui. On est appelés à vivre pour l'éternité avec lui. Le temps non plus ne comptera plus pour nous un jour. Quand Dieu aura restauré toutes choses, quand il aura recréé cette nouvelle terre et ses nouveaux yeux, le chrétien, avant la résurrection des justes, parce qu'il va y avoir deux résurrections, celle des injustes, celle des justes, ceux qui recevront le jugement, qui sont condamnés pour l'éternité, mais ceux les justes, eh bien, ceux qui reprendront ce corps, bien, vont passer l'éternité avec le Seigneur sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer. C'est amen à ça. Deux Timothée 4, versets 7 et 8. Ainsi, aimer son avènement signifie vivre comme Dieu nous demande de vivre, car comme nous le rappelle l'apôtre Paul Jean, pardon, quiconque a cette espérance en lui. Alors, tourne avec moi, hein, Jean 3, 3. Hein, Jean 3, 3. Quand je, aux études bibliques, quand je lis les épîtres de Jean, ils n'aiment pas trop, hein. Ils n'aiment pas trop parce que Jean, il nous fouette, hein. Jean, c'est un gars qui ne passe pas par. Il n'a pas suivi les cours, lui, pour comment séduire les gens. Jean, il dirait. Il faut penser aussi que l'épître de Jean était écrit, c'est dans les dernières épîtres qu'elle est écrite. Déjà, l'Église commençait à boiter. Déjà, on acceptait par la grâce, on acceptait tout, quoi. On peut continuer à pécher parce qu'on était sous la grâce. Et là, Jean, radicalement, il va écrire trois épîtres pour dire que ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de défigurer, dénaturer la grâce de Dieu, quoi. Et Dietrich Bonhoeffer, c'est lui qui a utilisé ce terme-là. Il y en a qui utilisent la grâce comme licence pour pécher. C'est une, la grâce, pécher la grâce à bon marché. Alors oui, maintenant tu es sous la grâce, bon, tu es pardonné, tu as été pardonné une fois pour toutes dans ta vie, tu n'as plus besoin de demander pardon à Dieu, c'est pardonner, effacer, peu importe les péchés que tu commets, oh, le Seigneur les voit, les entend, ça s'en va à la croix, tu n'as même plus besoin de le dire, tu n'as même plus besoin de demander pardon, écoute, ton ciel est garanti, et là Jean est obligé d'écrire la première épître, et la première épître, elle nous remet sous le piton, hein? Elle nous remet à la bonne place, quoi. Qu'est-ce qu'il dit Jean ici? Jean chapitre 1, chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, quiconque a cette espérance en Christ, quiconque a cette espérance qui sera ramené de la mort à la vie, quiconque a l'espérance que Christ va revenir bientôt, quiconque a cette espérance qu'il va régner avec lui, quiconque a cette espérance que ses péchés sont pardonnés à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il se purifie comme lui-même est pur. C'est qui lui-même? C'est Christ. Écoutez, si on n'est pas capable d'être aussi peu que Christ, eh bien, écoutez, prenez un crayon et effacez ce verset-là, quoi. Il nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Là, je ne l'interprète pas, je le lis avec vous, quoi. Et le lui-même, c'est Christ. On nous a annoncé un évangile, moi je trouve défaitiste. Il y a Christ et tous ceux qui l'ont accepté. Et c'est bizarre, quand je lis les évangiles, quand je lis les épîtres, il y a Christ, il y a tous ceux qui l'ont accepté. Dans Jean, Jésus nous le dit, que le Père nous aime autant qu'il m'a aimé. On est égal. L'esprit qui habitait dans le corps de Christ, quand il était sur la terre, c'est le même esprit que nous avons reçu, puisque c'est son esprit qui nous a donné. Cet esprit qui, dans 100% de la nature humaine de Jésus, lui permettait de mener une vie comme Dieu lui demandait, c'est le même esprit qu'on a reçu. Le problème, vous savez quoi? C'est que pendant des années, on nous a dit, « Oui, mais tu es un pécheur gracié, tu es un pécheur gracié. » Moi, je vous mets au défi. Dans toutes les épîtres que Paul va prêcher, vous trouvez une seule fois, il va traiter un chrétien de pécheur gracié. cochon, que vous le laviez, que vous le frottiez, que vous mettez un beau ruban rose autour du cou, que vous le mettiez dans votre salon, qui se promène toute la journée dans votre salon en liberté. Le jour où vous laissez la porte ouverte, puis il voit sa soupe, il part en courant, il va aller dans sa soupe, parce que c'est la nature du cochon de se rouler dans sa soupe. Un cochon reste un cochon. Un pécheur, transformé par la grâce de Dieu, qui passe par une nouvelle naissance. C'est un saint. C'est quelqu'un qui est mis à part. C'est un enfant de Dieu, qui a toujours la capacité de pécher, mais qui a aussi la capacité en Jésus-Christ de se purifier comme lui-même est purifié. Vous êtes en même temps? Vous savez, ce n'est pas d'essayer de chercher des versets qui vont venir confirmer ce que nous, on pense, mais c'est de dire, Seigneur, tu me dis que moi, je suis en mesure d'être aussi pur que toi, et donne-moi cette capacité, Seigneur. Donne-moi ta révélation. Parce que ce n'est pas toujours de cette façon-là que j'ai compris les Écritures. Frères et sœurs, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi Jésus nous dit ça si ce n'est pas possible? Il veut nous faire souffrir, le Seigneur. Il veut nous faire mal. S'il sait qu'on n'est pas capable d'être parfait, pourquoi est-ce qu'il nous dit « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait » Pourquoi est-ce qu'il nous le dit? Le problème, c'est que la perfection, on la voit au niveau des œuvres. C'est ça le problème. Et dans Romains, Paul nous dit « C'est quoi accomplir parfaitement la loi de Christ? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. » Hé, c'est pas une question d'œuvre, c'est une question de cœur. Une question de cœur. On est sous la grâce. C'est une question de cœur. Hey, la loi, mais d'un autre côté. Nous, on veut revenir à la loi pour essayer de voir, pour confirmer qu'on est sauvé. Non. Le cœur. Pourquoi? Pourquoi le cœur? Parce que si mon cœur n'appartient pas à Dieu, je ne serai pas capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Et pour ça que Jean... Pardon. Pour ça que Jean dit, écoute, c'est une conviction de ce que tu as entendu comme évangile. Que l'évangile que tu as accepté, c'est 100% la vérité. Alors purifie-toi comme lui-même est pur. Et aie la certitude dans ton cœur qu'en Jésus-Christ, tu es capable d'être pur comme lui-même est pur. Frères et sœurs, si on reçoit cette révélation-là, si on la saisit, vous imaginez le bouleversement qu'il va y avoir dans vos vies dans l'Église. Comme Paul, vous serez prêt à tout. À tout. Pour la proclamation de l'Évangile. Comme Paul, vous serez prêt à tout. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, méditer les Écritures, c'est une chose. De les mémoriser, c'est une chose. Mais de les méditer, c'est une autre chose. J'ai connu des gens qui connaissaient des versets par cœur, une liste incroyable, qui me dépassait. Et les versets qu'ils connaissaient par cœur, ils ne vivaient pas. Méditer les Écritures, c'est les manger, c'est les digérer, et c'est laisser le Saint-Esprit faire son travail. Le Saint-Esprit fait son travail quand on médite les Écritures. Amen. On va arrêter là pour ce matin. Alors, être pur comme lui-même est pur, c'est s'attacher aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. C'est garder nos yeux fixés sur celui qui est en haut. Et non pas sur ce que le monde va nous offrir. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et on continuera la semaine prochaine ce message.